Bienvenue dans À tes amours, le podcast qui propose une autre manière d'aborder les relations. Nous sommes Adèle,
Alexia
et Sacha.
Et nous allons vous parler notamment d'émotions, de communication, de polyamour et d'autres formes de non-monogamie. Ce podcast s'adresse à toute personne s'interrogeant sur les relations.
Pour cet épisode, on s'intéresse à la relation entre métamour. Alors, avant toute chose, c'est quoi un métamour ?
Un métamour, c'est le partenaire de ma ou mon partenaire. On peut dire aussi méta, c'est plus court.
Yes, et tant qu'on est sur du vocabulaire, je vais rajouter un mot. La personne pivot, c'est quelqu'un qui est en relation avec deux personnes différentes. Pour illustrer, Sacha est en relation avec moi, imaginons que je suis aussi en relation avec Nicolas. Alors, de 1, je suis pivot entre Sacha et Nicolas. De 2, Nicolas est le méta de Sacha et inversement, Sacha est le méta de Nicolas. Maintenant, la question, c'est quelle est la relation entre Sacha et Nicolas? Est-ce qu'ils s'apprécient ou pas du tout? Est-ce qu'ils se voient souvent ou jamais? Est-ce qu'ils ont le numéro de téléphone l'un de l'autre? Bref, quel genre de relation entretiennent des métamours?
Pour commencer, on vous partage nos expériences autour de relations entre méta qui se passent bien. On aborde ensuite des situations plus compliquées entre métamours. Et avant de conclure cet épisode, on vous donne quelques astuces pour que tout se passe au mieux avec nos méta.
Alors, vendez-moi du rêve. Est-ce que vous pouvez me parler de relations entre méta qui se sont bien passées?
Alors moi, aujourd'hui, je pense que mes relations de méta se passent bien. Ou en tout cas, de mon côté, je n'ai pas de problème. Je ne sais pas si c'est toujours parfait de l'autre côté. Mais moi, je n'ai pas de problème dans le sens où les relations de méta que j'ai, ce sont des gens avec qui, quand je les vois, je leur dis bonjour, ça se passe bien, je ne me sens pas jaloux ou en insécurité. Je suis capable d'organiser des choses avec eux. J'essaye, et je pense que je ne suis pas trop mauvais là-dessus, de les faire se sentir bienvenus chez moi. Et qui se sentent pas menacés par moi ou qui se sentent pas que je serais jaloux de ce côté-là. Donc j'essaye de ne pas paraître menaçant d'une quelconque raison. Et moi, en tout cas, je me sens pas menacé ou blessé par eux. Et donc ce sont des relations très très cordiales, fluides de ce point de vue-là. Donc c'est assez chouette.
En tout cas, sereines. Des relations sereines de ton côté.
Voilà, c'est ça. Après, c'est pas forcément des gens avec qui je vais être grand ami. Alors après, ça va dépendre. Soit est-ce que c'était déjà des grands amis à moi avant, puisqu'Alexia aime bien sortir avec mes amis.
Bon.
Mais soit c'était déjà des amis à moi, et dans ce cas-là, la relation d'amitié, elle reste toujours là. Alors, elle va être un petit peu teintée, mais globalement, la relation d'amitié va rester là. Sinon, si c'était pas déjà des amis, je vais pas forcément me dire qu'il faut absolument que je devienne ami avec eux, parce que ça rendrait la relation de méta plus belle ou je ne sais quoi. Donc juste, je vais les voir. Et puis si jamais ça accroche bien à un moment, c'est cool. Et bon, en pratique, ça n'a jamais accroché plus que ça. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème. Et ça ne veut pas dire que peut-être que d'ici 2 mois, on trouvera des super points communs ou des super activités qu'on adore faire ensemble et que ça deviendra des super amis.
Je pense que pour contextualiser, il faut peut-être que tu précises, est-ce que tu les vois spécifiquement en dehors de moments où, par exemple, parce que vous vivez ensemble, Alexia et toi, Alexia invite d'autres relations chez vous, et donc vous vous croisez finalement dans votre appartement, ou est-ce que tu les vois en dehors, tu prévois des points avec elle ou des activités
En fait, c'est marrant, quand tu as commencé à dire ta question, en fait, moi, je voyais deux choses. Il y a effectivement le premier point qui est effectivement, est-ce quand je les vois, parce que ils viennent chez moi pour voir Alexia, vu qu'on habite ensemble, ils viennent et du coup, je les croise, ou alors Alexia fait une soirée et du coup, je les vois à la soirée, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est un point. Et l'autre cas, moi, auquel je pensais quand tu disais l'alternative, c'était est-ce que moi, je fais des choses avec eux, mais en fait, je voyais plus ça comme des... soit c'était des amis à moi, du coup, je les vois dans ces cercles d'amis, ou alors c'est des gens avec qui je vais avoir peut-être d'autres projets ou des choses comme ça qui vont se passer à côté parce que je les connais sur des activités extérieures. Et donc, dans ce cas-là, en fait, finalement, pour moi, leur rôle, ils sont plus dans le rôle de méta. Et en fait, j'en ai rien à faire de qu'est-ce qu'ils font par ailleurs avec Alexia, c'est pas du tout la question, quoi. Même si ça peut créer une petite complicité éventuellement, mais c'est pas trop la question. Je les vois plus dans le rôle de si on est là pour faire de la musique ensemble, on fait de la musique ensemble, quoi. Et donc, pour répondre à ta question qui était est-ce que je les vois spécifiquement pour ça, je crois pas avoir beaucoup décidé, moi, d'organiser un événement en disant ah tiens, on va se prendre un verre tous les deux juste pour faire connaissance et discuter, apprendre à se connaître en tant que méta. Ça, c'est quelque chose que finalement que j'ai pas beaucoup fait.
Ça, c'est moi qui fais ça, moi. Moi, j'aime bien aller voir mes méta en règle générale et m'assurer qu'il y ait au moins moyen de discuter et puis les connaître parce que c'est des personnes que mes amoureux aiment bien ou amoureuses et du coup, je trouve ça sympa. Et aussi humaniser la personne parce que tant que tu vois pas la personne, enfin ça c'est la question de la rencontre. Je trouve que discuter un peu avec sa méta, ça désamorce un peu des sentiments de jalousie parce que tu vois que c'est une personne qui a ses insécurités aussi, qui est juste humaine quoi. Et je sais pas, ça crée un truc d'affection qui fait que tu vas moins développer des sentiments agressifs ou mauvais envers la personne, je trouve.
De mon côté, je pense que j'ai pas eu tellement de relations effectivement développées spécifiquement vis-à-vis de méta. Et encore que, je pense que à travers notamment certains de mes liens, j'ai pu rencontrer finalement des méta qui sont devenus mes amis avec du temps. Quand il y a eu des liens qui se sont développés, en fait, soit j'ai eu l'occasion de vraiment rencontrer mes méta, soit parfois la relation entre méta s'est pas développée. Soit parce que j'ai pas eu l'occasion, parce que par exemple la personne était à l'étranger et du coup juste on pouvait pas vraiment se voir, se rencontrer physiquement ou spécifiquement échanger. Donc je la connaissais pas particulièrement. Mais enfin oui, en tout cas il y a eu plusieurs situations où j'ai pas été amenée à rencontrer ma méta et à développer des liens avec elle.
Du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça peut se passer bien de plusieurs manières avec une méta. Tu peux avoir une méta que tu vois pas spécialement. Moi, j'aime bien les rencontrer, mais après, il y a des méta que je vais vraiment croiser, et c'est tout, quoi, et je vais globalement pas particulièrement les voir. Et d'autres méta avec qui je peux carrément développer une complicité, et je suis contente quand je les vois passer à la maison. Et on peut décider de... Ça m'est arrivé de faire des trucs avec une méta pour le plaisir, en fait, parce qu'en fait, je deviens éventuellement amie avec elle. D'ailleurs, la première relation que Sacha a eue avec quelqu'un d'autre... Je suis devenue très amie avec cette personne et je la voyais presque plus que Sacha la voyait, quoi.
C'est vrai qu'il y a plein de manières de faire, il n'y a pas de bonne manière. Moi, je considère que c'est quand même intéressant d'avoir une relation cordiale avec ces métamours parce que c'est des gens que tu seras probablement amené à croiser d'une manière ou d'une autre parce que vous êtes plusieurs à avoir une place d'importance dans la vie de quelqu'un. Après, certaines personnes vont décider de faire en sorte de pas se croiser du tout. C'est une possibilité, mais ça nécessite de l'énergie de faire en sorte de pas se croiser pour une raison ou une autre. Donc, si on peut avoir une relation cordiale avec du respect, sans forcément une amitié très forte, mais juste du respect avec ses méta.
Ouais, être capable de dire bonjour, ça va, tu vois, et,
oui,
et bonne
c'est
journée,
ça, quoi.
Sans
se sentir mal. Et de pouvoir se coordonner éventuellement pour faire des surprises, organiser un anniversaire surprise ou je ne sais quoi.
C'est trop chou, ça.
Ou se coordonner pour des choses, c'est des choses qui sont chouettes. Donc, si c'est possible d'atteindre ce niveau-là, ça nécessite pas forcément grand-chose. Bah, c'est sympa, quoi. Après, c'est pas obligatoire. Hein.
Après, on fait comme on peut aussi. Il y a des fois où on y viendra après. Mais toi, Sacha, t'as une force de confiance en toi et de sérénité qui fait que tu te sens pas forcément en insécurité fort vis-à-vis d'autres personnes. Tu m'arrêtes hein, si je me trompe.
Bah, ça vient avec le temps aussi.
Ouais. Mais il y a des personnes avec le temps, ça vient pas forcément, je pense à moi-même.
Bah, ça vient avec le temps, avec la relation aussi.
Mm-hmm. Oui,
tu
oui.
Tu prends confiance dans une relation.
Ouais, ça c'est vrai. Ouais.
T'as beau avoir très confiance en toi depuis des années, si jamais tu sors avec quelqu'un qui, par exemple, tu sors avec quelqu'un qui est un petit peu monogame.
Ouais, ça tout de suite, ça peut faire peur.
Et qui décide de tester les relations multiples avec toi, bah, si cette personne, tu sens qu'elle est toujours monogame dans l'âme, le jour où cette personne, elle va rencontrer une nouvelle personne qui va lui convenir très très bien, il y a toujours ce risque de dire, bon, bah, elle risque de me quitter pour revenir dans son schéma de monogamie, par exemple. Et ça, c'est pas une histoire de confiance en soi. Mais pour autant, ça veut pas dire que ta relation avec ton méta, dans ce cas-là, se passerait mal.
Ouais.
Bah d'ailleurs, en fait, moi, je pense que c'est quelque chose que j'envisageais pas du tout dans les débuts de relation, que je puisse être amie avec, avec mon ou ma méta. Paradoxalement, quand je reviens un petit peu sur les expériences de vie, je me suis aperçue après coup que finalement j'avais été amie avec mon méta sans forcément me l'être formalisé sur le moment. Je pense à une situation où en fait mon ex est sorti finalement avec une amie et du coup de fait c'est devenu ma méta aussi. Et ça changeait rien à la relation, voire même on parlait de la relation qu'elle avait. Et même si c'est une méta avec une relation qui est finie, donc c'est peut-être une fausse méta, on va dire. Mmh. C'était un premier pas pour me faire me rendre compte qu'en fait, on peut avoir des liens avec des gens qui sont en lien avec des gens qu'on a aimés ou qu'on aime et que c'est possible. Et je pense que ça a changé un truc dans la manière dont je concevais les choses. En me disant, mais finalement, le partenaire de ma partenaire ou la partenaire de ma partenaire, c'est pas forcément quelqu'un qui doit me faire peur. Ça peut aussi être quelqu'un juste de cool, que je vais être contente de croiser, avec qui je vais être contente d'interagir. C'est pas quelque chose qui me semblait accessible. Et maintenant, ça me paraît faisable. Et je trouve qu'on gagne à considérer qu'en fait, les amours de nos amours sont pas forcément nos ennemis ou sont pas forcément en concurrence avec nous. Et c'est pas quelque chose que j'avais en tête initialement. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça peut bien se passer entre des personnes qui, a priori, peuvent paraître concurrentes, quoi, pour l'amour d'une personne.
Je vois un truc dans ce que tu dis, Adèle, qui est par rapport au fait que parfois, c'est difficile d'être l'ex d'une personne. Parce que, voilà, t'es l'ex de quelqu'un et la nouvelle copine, par exemple, du gars, va te craindre parce que t'es l'ex. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ouais, complètement, ça m'arrive souvent.
C'est ça, effectivement, c'est pas des situations de méta au sens propre du terme parce que t'es plus avec la personne, mais il y a quand même une relation de compétition entre éventuellement le nouveau copain du gars et l'ex... et l'ex du gars, je m'en mêle dans les genres, mais... Entre nouvel amoureux et ex, quoi. Et c'est intéressant à déconstruire parce que c'est tellement plus facile quand juste on peut bien s'entendre et être amis comme des gros hippies tous ensemble au bord de la plage. Et c'est possible.
Oui, et puis du coup, je trouve que ça étend un petit peu le concept de métamour. C'est pas quelque chose qui a de l'utilité, on va dire, que dans les relations polyamoureuses. En fait, même quand on est en monogamie, je trouve ça intéressant de pouvoir visualiser potentiellement les ex de la personne avec qui on est ou ses propres ex comme des métas, soit de nous, soit de notre partenaire, en fait. Et envisager qu'une relation, elle puisse exister entre ces personnes et que ça mette pas en danger sa propre relation. Je trouve ça assez intéressant en réalité et ça donne déjà une ouverture. Alors, encore une fois, c'est pas du tout une obligation. Mais ne serait-ce que l'envisager, je trouve que ça change un petit peu les perspectives.
Alors après, méta, ça veut dire partenaire de partenaire. Donc,
ouais.
Techniquement, on peut pas l'utiliser pour parler d'ex ou de choses comme ça, mais c'est vrai qu'on peut faire des comparaisons. C'est des situations qui peuvent être assez similaires sur pas mal de points.
Mm-mm. Dans un épisode de Multi Amoury Podcast, ils parlent des mecs méta, entre eux, quoi. Et ils disent qu'il y a quelque chose qui se rapproche éventuellement de la relation entre beau-frère. Parce que du coup, c'est quelqu'un qui est dans ta vie, ton beau-frère. Et j'imagine qu'il y a un peu derrière, de, pour le coup, là, dans le genre masculin de performance, de je suis un gars fort ou je sais pas quoi. Et quand tu rencontres ton beau-frère, tu veux montrer que t'es un gars fort et inversement, ton beau-frère, il veut te montrer qu'il est un gars fort ou je sais pas quoi. Je grossis vraiment le trait, mais...
Pour préciser, comme beau-frère, ça a plusieurs significations en français. Là, du coup, ça serait de tu sors avec quelqu'un et ton méta, c'est comme si c'était le frère de la personne
ouais.
avec qui tu sors.
Mm-hmm. Et voilà, moi, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que ça peut se rapprocher un petit peu... En termes d'intimité, quoi. C'est vrai que moi, par exemple, je suis très proche de mon frère et je porte une attention à comment mon frère s'entend avec mes amoureux et ça a quelque chose, il y a une forme d'enjeu aussi, quoi.
Ouais, c'est une famille un petit peu élargie d'ailleurs. On peut le visualiser comme ça et les gens n'ont pas forcément besoin de s'entendre à la perfection dans une famille, mais ils vont être amenés à se croiser à des événements qui sont importants. Par exemple, si c'est mon anniversaire, potentiellement, je veux que les différents membres de ma famille puissent se retrouver dans une même salle et être là pour moi et qu'il n'y ait pas de conflit, que ça mette personne dans une situation stressante ou quoi. Et effectivement, il y a des comparaisons qui peuvent être faisables avec la famille.
Ça marche bien, la famille, effectivement. Alors, il y a moins le côté compétition, éventuellement, qui apparaît un peu moins dans la famille, même si ça peut, mais c'est un peu moins le cas. Mais le côté de, c'est une personne chère à la personne que tu aimes, et tu composes avec, quoi. Et de la même manière que du coup, si t'organises une soirée surprise, tu vas te coordonner avec le frère ou l'oncle de la personne avec qui tu sors, et tu vas coordonner avec l'autre personne avec qui elle sort.
Ouais, ce qui me fait d'ailleurs penser que moi, je pense que la première situation où j'ai vu finalement des méta qui n'étaient pas les miens, mais des méta dans une même pièce, c'était... pour ce genre d'événement où en fait il y avait un anniversaire d'organiser, il y avait les différents amoureux d'une personne que j'aimais beaucoup et je voyais que ils se parlaient un petit peu, qu'ils restaient pas forcément tout le temps ensemble pendant la soirée, mais que ça leur posait pas de problème d'être réunis dans la même pièce et d'avoir des amis en commun, des discussions. Et ouais, c'est un côté très beau en fait de constater que c'est possible de l'extérieur. Et moi, je me souviens que ça m'avait assez touchée.
Et d'ailleurs, les polyamoureux, ils donnent des noms pour ce genre de cas. Et donc, du coup, les méta qui se rencontrent uniquement pour les anniversaires. Alors bon, c'est un terme très peu utilisé, mais les gens parlent de garden party polyamory, ça veut dire juste les méta qui se rencontrent pendant les soirées d'anniversaire, en gros, quoi. Enfin, ou autre type de soirée. Et donc, dans les différents types qu'il peut y avoir de classification, si on part du moins de relations entre méta au plus entre méta, s'il n'y a pas du tout de relations entre méta, les gens appellent ça le don't ask, don't tell en anglais, ce qui veut dire...
Ne demande pas, ne dis pas.
Voilà.
Pose pas la question et tu demandes pas de questions.
C'est ça, et donc du coup, là, les métas sont même pas forcément au courant de l'existence de l'autre. Parfois, il y en a même qui refusent de voir le moindre trace d'existence de l'autre. Il faut pas qu'il y ait une brosse à dents qui traîne ou une chaussette qui a été oubliée dans l'appartement ou je ne sais quoi.
Ou un cheveu sur ta veste. Ouais, voilà, donc c'est un peu... tu peux avoir d'autres relations, mais cache-les, quoi. Et puis, il y a la relation en parallèle, qui est... Ok, je sais qu'il y a quelqu'un d'autre, éventuellement je connais son prénom, mais c'est quelqu'un que je veux pas rencontrer et voilà quoi, je connais simplement son existence.
Et éventuellement on se croise sur le pas de la porte, mais pas tellement plus quoi. Alors voilà, c'est des catégories très vagues, et parfois du coup le garden party, c'est-à-dire le fait de se voir que pendant quelques rares soirées, les gens vont inclure ça dans le polyamour parallèle, ou alors ils vont l'inclure dans la catégorie suivante.
Qui est la kitchen table et où là l'idée c'est un polyamour convivial où tout le monde se retrouve autour de la table du petit déjeuner et discute gaiement ensemble. Donc là on a plutôt des relations en fait avec les méta et on peut facilement discuter de sujets, voire même on développe des relations spécifiques avec les méta dans ce genre de cadre.
Yeah, c'est trop bien. Quand on arrive
après,
à ça.
Il y a des gens qui vont plus loin dans les classifications et qui vont appeler le lap sitting polyamory quand les méta s'assoient sur les genoux les uns des autres et éventuellement deviennent plus intimes. Et après, ça peut aller jusqu'à les méta même, ils ont des relations entre eux. Et donc, du coup, après, ça peut faire des relations de troupes ou comme on veut les appeler. C'est encore des crans encore plus loin. Sur ce spectre-là, qui est d'ailleurs pas un spectre forcément très pertinent. L'idée de ces catégories, c'est pour pouvoir donner des ordres d'idées. Après, vous les utilisez ou pas, si ça vous convient.
Et il faut bien comprendre qu'en fait, il n'y a pas une bonne manière d'être en relation avec ces méta. Tous les modèles qu'on vient d'évoquer, ils sont valables. Même, on peut avoir différents types de relations en fonction de ses amoureux et ses méta. Moi, c'est ma situation. Avec certains méta, j'ai pas du tout de lien. C'est pas vraiment du don't ask, don't tell parce que... moi, je veux bien connaître l'existence de l'autre, mais on n'interagit pas spécifiquement pour autant. Et avec d'autres, je vais être amie et très contente de les voir et de potentiellement organiser des événements avec eux. Donc, tout est faisable et on peut avoir différents types de relations avec différents méta.
Donc ça, c'était quand tout se passait bien. Et maintenant, je vous propose de passer à la face sombre de la pièce. Je crois pas que ça se dise, mais tant pis. Et me parler de situations qui se passent moins bien.
Déjà, si on reste dans la veine de ce qu'on vient de dire juste avant, il y a l'idée de... on n'a pas le genre de relation qu'on voudrait avoir avec son méta. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai très envie d'être ami avec mes méta, mais soit à cause de mon méta qui veut pas me voir... soit à cause du pivot, c'est-à-dire la relation en commun, qui, ça le fait paniquer, eh bien, je ne peux pas avoir le genre de relation que je voulais avoir.
Donc ça peut être frustrant.
Voilà, je voudrais être ami avec mes méta, mais en fait, je peux pas être ami. Ou au contraire, je veux pas les voir et on essaye de m'imposer d'être ami avec eux.
Oui. Tu commences pas par les cas les plus évidents pour moi, mais, mais c'est vrai, ce sont des cas qui arrivent.
Bah pour le coup, moi j'ai eu un témoignage de quelqu'un qui me racontait qu'effectivement, il aurait beaucoup aimé rencontrer ses méta, mais que la relation qu'ils avaient en commun, donc le pivot de la relation, s'opposait très fortement à ce qu'ils se rencontrent parce que, je sais pas, le pivot avait peur qu'il noue une super relation et que finalement, peut-être qu'il se passe du pivot ensuite. Et du coup,
Je pense que je peux comprendre, il y a un aspect de, on a des relations intimes entre deux personnes qu'on aime beaucoup en tant que pivot. On se dit que les personnes qu'on aime peut-être pourraient s'aimer aussi, bah peut-être que ça peut faire paniquer et qu'on préfère séparer et cloisonner. Ou peut-être qu'on a peur d'aspects qui pourraient être partagés de notre intimité et de vécu en commun. Donc effectivement, c'est des situations qui arrivent et qui peuvent être frustrantes. Et dans ces cas-là, bah, il peut y avoir des bonnes raisons. Il s'agit de savoir ce qu'on veut en faire et si du coup on respecte finalement son amoureux et on rencontre pas ses métas et on cherche pas à avoir de lien avec elle quoi ou avec eux.
Oui, ça c'est en fonction du besoin de chacun aussi quoi. Si tu souffres vraiment parce que tu rencontres, par exemple, enfin je peux m'imaginer souffrir parce que j'ai une méta et je l'ai jamais vue et j'ai de la jalousie et je sais que la rencontrer m'aiderait à me sentir moins jalouse. Enfin, en tout cas, je le crois. Bah, si le pivot refuse de me donner ça, et il faut qu'il ait des bonnes raisons, quoi.
Oui, mais pour le coup, là, ce que tu demandes, c'est juste un outil pour que tu te sentes mieux, et des outils pour que tu te sentes mieux, il pourrait y en avoir d'autres aussi.
Non. non, mais oui, effectivement.
Bah là, effectivement, la situation par rapport au témoignage n'était pas une situation de souffrance, et donc ce qui se passait, c'était juste, bon, bah, il y a de la frustration parce que la personne aurait bien aimé pouvoir nouer un lien direct avec son méta et même pour des aspects de logistique, pouvoir facilement vérifier certaines choses ou organiser des événements un petit peu plus facilement. Bah, ça s'est pas fait, tant pis, et puis c'est juste un petit peu dommage, et puis c'est pas grave.
La question de besoin, ici, elle est très importante, c'est-à-dire que bah, pour certaines personnes, ça pourrait vraiment être un besoin. Pas forcément un besoin vital, mais disons, par exemple, ça pourrait être vraiment la manière dont la personne a envie de vivre sa vie. Et du coup, ça pourrait être incompatible. Et du coup, c'est intéressant de savoir ça en début de relation ou de... Alors, c'est peut-être plus du point de vue du pivot. Donc, on en parlera plus la prochaine fois. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, j'ai envie que mes relations, ça soit que du polyamour convivial parce que vraiment, ça serait un enfer logistique sinon de gérer si on peut pas le matin prendre le petit déj ensemble. Enfin, quel enfer ma vie, quoi. Donc, c'est un truc que je pose cash en relation, que bah, les relations, c'est forcément un minimum convivial derrière, parce que sinon, bah, sinon ça m'intéresse pas.
Trop prise de tête. Bon. Mais moi, je voulais parler de vraies souffrances. Et du coup, je vous propose d'entrer directement dans le truc auquel on est vraiment facilement confronté, à savoir, je me sens pas bien vis-à-vis de mon méta.
Oui, bah d'ailleurs, c'est la situation, on va dire... qu'on rencontre surtout dans les débuts du polyamour où bah finalement la son méta on a grave peur d'elle ou de lui. En tout cas moi c'était mon cas. Je sais que les premières fois où j'ai dû combiner avec le fait que mon partenaire avait une autre partenaire, bah je me sentais hyper en insécurité, je me disais que j'étais forcément peut-être moins bien ou que j'allais être abandonnée par mon partenaire et du coup ça me faisait un peu paniquer. Et je n'avais pas forcément envie, du coup, de rencontrer ma méta, de la croiser. Mais d'un autre côté, j'étais pas bien non plus de pas savoir à quoi elle ressemblait, pas avoir d'infos. Et c'était un peu compliqué de combiner avec. Et je savais même pas ce que je voulais comme relation ou comme non-relation avec ma méta, quoi.
Ouais. Bah, y a plein de raisons de se sentir pas bien vis-à-vis de son méta. Genre déjà, il y a les insécurités qui peuvent susciter de la jalousie, donc avoir l'impression de pas avoir assez de valeur ou avoir l'impression que le lien qu'on a avec notre partenaire peut être mis en danger, ou des questions de fierté, tout simplement, avoir l'impression de plus être la seule personne, ça peut te sortir d'un piédestal ou être une honte ou des choses comme ça. Il y a aussi, je pense, pour entre femmes, je pense qu'il nous arrive d'avoir de la misogynie intériorisée. On a beau essayer de se déconstruire, on peut avoir de la misogynie qui revient, qui s'accroche aux insécurités qui passent par là et qui accompagne le truc. Et parfois aussi, on peut avoir l'impression que ça va bien et faire un peu du déni sur le fait qu'on est quand même blessé. Je suis une spécialiste en déni. Et ce qui est un truc que je trouve assez incroyable, c'est que si ta méta est, disons, super stylée, tu vois ta méta et t'es là genre « Ouah, cette femme est incroyable !» et tu te sens comme une merde à côté. Ça, c'est déjà une raison qui fait que tu peux te sentir vraiment pas bien dans ton lien avec ta méta. Mais ce qui est trop bizarre, c'est que, éventuellement, si tu vois la personne et que, au contraire, entre guillemets, c'est quelqu'un qui a pas du tout les attributs que toi tu veux avoir et qui est très différente de toi, bah, en fait, éventuellement, tu peux aussi être mise en insécurité parce que tu te dis, mais si mon partenaire est intéressé par cette personne qui n'a vraiment rien à voir avec moi et que je voudrais vraiment pas être, comment ça se fait qu'il soit aussi intéressé par moi? Est-ce qu'il est vraiment intéressé par moi? Si ça se trouve, en fait, je suis pas son style. Donc, il y a ces deux trucs-là. Et ensuite, quand bien même c'est ni l'un ni l'autre, et en fait, tu te sens bien dans tes baskets et tu vois la personne en face et tu dis « Ah oui, je vois pourquoi mon partenaire l'aime bien, c'est une meuf qui a l'air cool et voilà. » Tu peux quand même avoir des insécurités qui viennent d'autres choses. Par exemple, ils ont des points communs que toi, t'as pas. Je sais pas, ils aiment tous les deux Pokémon et toi, t'as jamais aimé Pokémon. Et genre, ils se mettent à en discuter plein et toi, tu te sens mise de côté et tu sens qu'ils sont dans un monde que tu peux pas partager. Mm. Et bah, c'est aussi un truc qui peut te faire sentir mal. Donc, il y a vraiment une palette. En tout cas, ça, c'est des trucs que j'ai pu voir ou vivre.
Oui, et puis on parlait dans la première partie de la conception qu'on avait des métas, et d'ailleurs, peut-être qu'une partie de ce qu'on a dit dans la première partie était inaudible pour pas mal de gens, dans le sens où la société nous dit tellement qu'en fait, quelqu'un qui aurait de l'intimité avec ton ou ta partenaire, ça serait vraiment ton concurrent ultime, la pire chose qui puisse t'arriver, etc., et l'ennemi à abattre, que pour certaines personnes, quand on racontait « Ah oui, bah... » Avec nos métas, on organise des trucs, on prend le petit-déj ensemble, les gens se veulent dire « Ah, mais quelle horreur, est-ce que ces gens sont masochistes pour avoir envie de faire ça ?» Alors que non, aujourd'hui, pour nous, c'est quelque chose d'agréable, il n'y a vraiment aucun problème, il n'y a pas de douleur, enfin, aucun problème. Il peut y en avoir quelques-uns, mais il n'y a pas de douleur particulière dans l'interaction avec des métas, mais au début, en tout cas, et pour certaines personnes, ça sera difficile à passer à autre chose, mais on nous apprend tellement à dire que ces gens-là sont des méchants et des concurrents ultimes, enfin plus des concurrents que des méchants d'ailleurs, mais qui vont prendre ta place, que ouais, c'est très difficile de passer à autre chose.
D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, personnellement, moi j'ai l'impression que je me suis sentie beaucoup plus en insécurité et en compétition, quand mes métas étaient du même genre que moi. C'est-à-dire quand j'étais finalement avec des métas femmes en face de moi. Alors ouais. Que quand j'avais un méta homme, finalement, je me sentais... J'avais beaucoup plus de facilité à nouer un lien amical ou cordial avec un méta homme. Mm-hmm. Parce que je pense que cet aspect de concurrent et de compétition était moindre dans ma tête, dû également aux normes d'hétérosexualité. Et que du coup, je me sentais moins mise en compétition, j'avais moins l'impression que j'allais être remplacée, et du coup, ça facilitait énormément le fait d'avoir un lien normal. Encore aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus facile pour moi, d'ailleurs, de rencontrer un méta masculin qu'une méta féminine, et je me sens beaucoup moins en danger, donc finalement, bah, c'est plus facile d'avoir des rapports cordiaux avec cette personne, quoi. Je sais pas si ça vous fait ça aussi.
Je n'ai pas eu beaucoup de méta masculins, mais c'est vrai que ceux que j'ai eus, les rares que j'ai eus, ils m'ont pas mise en insécurité pour le coup. Donc ouais, je pense que ça fait pareil pour moi.
Moi, j'ai pas énormément d'expérience là-dessus non plus, un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, donc ça sera difficile de...
tirer des conclusions.
Je sais juste que c'est un sujet un peu dangereux, dans le sens où, en fait, avec un petit peu... l'homophobie intériorisée, il y a éventuellement cette idée de discréditer les relations que des gens du même genre auraient entre eux et du coup de se sentir moins en compétition vis-à-vis de ça. Et enfin voilà, c'est dangereux et c'est ce qui emmène parfois à cette règle qui, on va pas avoir le temps d'en parler plus que ça et de dire du bien ou du mal de ça, mais c'est cette
one
fameuse
penis
règle.
Policy.
Exactement, qui est de dire que une femme dans un couple hétéro, elle aura le droit d'aller voir uniquement du côté d'autres femmes. Et de garder uniquement le pénis de son partenaire principal et de ne pas interagir avec d'autres pénis. Voilà, bon, on va pas débattre de ça là-dessus, mais il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il y a beaucoup de problèmes à ce genre de règles avec de bonnes raisons.
Oui, la seule remarque que je faisais, c'était juste d'identifier que potentiellement, la compétition, elle peut venir aussi avec des aspects genrés et que du coup, il faut s'en méfier et potentiellement, d'ailleurs, se poser la question de est-ce que je réagirais différemment si le genre de la personne était inversé, quoi. Et ça peut aussi dédiaboliser certaines situations en se disant, en fait, ça reste une personne, peu importe son genre, et voilà, ça reste juste quelqu'un qui a un lien fort avec mon partenaire ou ma partenaire, point.
Sur les situations assez simples, je vais revenir avec un scénario, le scénario où ton méta ne t'aime pas. Donc ça, c'est un autre truc encore. Toi, tu te sens bien vis-à-vis de ton méta, mais ton méta ne t'aime pas. Est-ce que ça vous est arrivé?
Je sais pas si ça m'est arrivé que les gens m'aiment pas directement ou juste qu'ils ont des difficultés à interagir avec moi de manière générale. Ça dépend aussi de à quel point le... Ouais, il y a des gens avec qui c'est plus facile d'être méta que d'autres, dans le sens où il y a des gens qui, soit parce qu'ils débutent, ou alors ils ont beaucoup d'insécurité ou de jalousie, etc. Du coup, la relation va être très compliquée. Et du coup, soit ils vont pas t'aimer, ou ils vont être très fuyants, peureux, jaloux, ou je ne sais quoi. Mm-mm. Et donc ça peut arriver. Mais bon, ce que tu peux faire, c'est essayer de les mettre un petit peu en confiance, éventuellement. Mais après, bon, bah, s'ils t'aiment pas, bah tant pis, hein, pas de relation, et puis c'est comme ça, hein. C'est pas...
Et du coup, il y a vraiment un moment où t'as pas forcément de levier par rapport à ce truc de mise en confiance, par exemple. Donc, moi, ça m'est arrivé. Autant j'ai été dans des situations où je me sentais très en insécurité vis-à-vis de méta. Autant l'inverse est arrivé aussi, et j'ai pu avoir des méta qui se sentaient en insécurité vis-à-vis de moi. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que dans ce cas-là, déjà, la personne, elle se sent en insécurité vis-à-vis de toi si en plus tu vas la voir et que t'es trop gentil et que tu lui tends la main. En fait, ça se passe pas bien, en fait. Tiens, genre, mais arrête, déjà, je te déteste, sois pas gentil avec moi en plus, quoi. Enfin, et du coup, ça donne lieu à des situations comme ça qui nous font un peu rire, mais qui sont vraiment dures, en vrai. Genre, qui rajoutent la difficulté à la difficulté.
Mmh. Oui, parce que tu peux même pas arriver avec une solution et proposer, justement, de l'écoute, de la bienveillance, de prendre un café, poser calmement les choses en disant « j'ai vraiment envie de te rassurer » parce que la personne en face, elle est en totale panique et en fait, elle te fait pas confiance. Donc, elle peut pas prendre les choses que tu vas vouloir lui apporter. C'est vrai que ça doit être très difficile à vivre. Pour le coup, moi, j'ai pas été mise en face de ça d'une manière très directe, dans le sens où je pense que les méta qui m'aimaient pas, elles m'évitaient. Et du coup, je me retrouvais à ne pas spécialement les côtoyer et à pas être mise en face de leur... de leur haine ou de leur insécurité. Après, éventuellement, j'ai pu avoir un partenaire qui évoque que je m'étais pas à l'aise, ça m'éta, mais ça s'arrêtait là, ça n'allait pas au-delà, quoi.
Mm-mm. Bah ouais, et moi, pour avoir été dans des garden parties où je sentais que j'étais pas aimée, où je croyais éventuellement, en rencontrant une méta, une garden party, dans une soirée, quoi, je me disais, mais je savais qu'elle avait des insécurités et je me disais, ok, je viens et je vais me faire détester. Et c'est vraiment difficile d'agir correctement. En plus, ça biaise tous tes comportements parce qu'en fait, t'as peur de blesser, t'as peur de tout, t'as peur d'interagir avec ton partenaire au bout d'un moment. Ça peut vraiment, vraiment compliquer les choses et on peut en vouloir à personne. Enfin, je veux dire, c'est pas de la faute de la personne qui récupère des insécurités, quoi. Enfin, et encore une fois, j'ai été moi-même la personne qui était carrément dans la détestation de ma méta. J'étais vraiment pas bien. Et voilà, je veux vraiment dire que ça arrive et que c'est compliqué pour tout le monde, quoi.
Après, l'interaction avec un partenaire dans un moment où tout le monde est présent, c'est encore un tout autre sujet qu'on va pas avoir le temps d'aborder là, mais...
Oui,
parfois,
bien sûr, mais...
Et souvent, le plus simple, c'est juste de dire que si les trois personnes sont présentes, personne n'interagit de manière particulièrement intime avec le partenaire. Comme ça, ça évite les problèmes, quoi.
Oui, d'accord, mais je veux dire, moi, dans une situation où je me fais détester, je vais éviter mon partenaire, quoi. Et ça donne lieu à des situations, je suis là, genre, où est-il? Il faut pas que je sois à côté de lui, tu vois, il faut pas qu'on se retrouve dans la même discussion, enfin...
Ouais, et puis indépendamment de ça, ça peut impacter ton lien avec ton partenaire, même en dehors, finalement, de rencontres. Oui. C'est-à-dire que si tu te sens vraiment détesté, tu peux dire, mais en fait, finalement, j'ai pas le droit d'exister en lien avec la relation. Ça me fait tellement de peine d'être affecté par ça que ça peut aussi remettre en question le lien que tu as avec la personne, en mode, c'est trop douloureux et finalement, j'ai aucun levier là-dessus.
Ouais.
Parce que quand c'est tes propres insécurités, tu peux dire, bon, ok, on va trouver comment me rassurer,
on va
mettre en place des choses, ça va mieux se passer. Mais quand c'est la personne en face de toi qui freak out, qui veut pas te parler, qui juste te déteste, en fait, comme on l'a évoqué, tu n'as pas de prise là-dessus et tu peux juste être un réceptacle de cette détestation. Et moi, je sais que j'ai énormément de mal à me sentir détestée et que mon comportement de protection... Pour moi, me sentir mieux et ne pas me sentir détestée, ça pourrait être la fuite et dire à la personne, en fait, je suis désolée, mais c'est trop compliqué pour moi de vivre un lien avec toi alors que je me sens en faute en permanence, quelle que soit la manière dont je me comporte. Et du coup, ça peut vraiment avoir des gros impacts si mon ou ma méta se sent vraiment, vraiment pas bien vis-à-vis de moi et que ça s'installe dans la durée. Que ce soit temporaire, je pense que je peux vivre avec. Mais si jamais ça s'installe dans la durée et que je vois que quoi que je fasse, je me sens hyper mal, étant donné que j'ai des capacités à culpabiliser qui sont assez impressionnantes, je pense que je voudrais juste me soustraire à la situation.
Moi, j'ai été dans des situations où je voyais mon cerveau en train de calculer un peu « Ok, est-ce qu'il est avec sa copine maintenant ? Parce que s'il est avec sa copine maintenant, je peux pas lui écrire de message, par exemple. » Tu vois, enfin des trucs où du coup je me basculais dans des comportements qui étaient pas à moi de gérer, des comportements de manipulation entre guillemets, parce que c'est du coup essayer de faire du mensonge par omission. Enfin, c'est des trucs hyper tordus et du coup je devais essayer de lutter pour pas faire ça, mais j'ai dû le faire quoi, parce que j'étais juste dans le stress en fait.
Mm-hmm. Alors qu'on en parlera juste après, mais c'est pas vraiment ta responsabilité.
Ouais, bah oui, mais effectivement, comme dit Adèle, il y a un moment où c'est difficile de savoir que tu mets en insécurité quelqu'un et potentiellement c'est quelqu'un que tu connais un peu et que t'aimes bien et genre... t'es non, je veux pas que cette personne souffre en fait. Donc c'est vraiment ultra compliqué parce qu'à côté t'as quand même envie que ton partenaire soit content aussi et si tu prends pas soin de ton partenaire, peut-être qu'il va souffrir aussi. Donc t'es là genre, il y a pas de solution, yes, tu vois.
Je pense qu'il y a une autre situation aussi où ça peut mal se passer. C'est si jamais on se retrouve dans une situation où on a peur que son méta fasse du mal à son partenaire. Est-ce que ça vous est arrivé d'être dans ce genre de situation ?
Ouais, bah j'avais pas peur, je le savais.
Oh waouh.
Donc c'est encore un peu différent, mais tu vois quelqu'un que t'aimes et qui est dans une relation avec quelqu'un d'autre et qui lui fait beaucoup de mal. Donc après c'est difficile parce que c'est jamais que des choses mauvaises, sinon ton partenaire serait pas avec cette autre personne. Mais il y a des moments où, tu sais pas trop quoi faire, quoi. Et où tu peux être derrière pour soutenir, pour essayer de contrecarrer, parce que, par exemple, tu peux avoir un méta qui est dévalorisant, ou insultant, ou maltraitant, des choses comme ça, et toi, derrière, ta partenaire, éventuellement, se sent pas bien derrière, se sent dévalorisé, et donc, toi, t'essaies de recoller les morceaux. Mais tu peux pas vraiment dire... à ta partenaire ce qu'elle doit faire ou pas. Tu dois voir la laisser mesurer le pour et le contre et décider de ce qui est bon pour elle.
Et finalement, c'est une situation assez classique qu'on retrouve d'ailleurs où il n'y a même pas de méta en jeu, où c'est juste tu as un ami ou une amie qui relationne avec quelqu'un où tu as l'impression que cette relation lui fait du mal. Sauf que là, c'est même encore pire parce que tu es dans une bien mauvaise position pour essayer de dire « Ah, cette relation te fait du mal », dans le sens où si tu dis « Ah, ça te fait du mal », ça peut être pris pour de la jalousie. Et puis, en fait, il y a peut-être aussi un peu de la jalousie qui rentre en jeu. Oui. C'est « Ah, ce week-end, t'étais avec ma méta plutôt qu'être avec moi. Et en plus, que du coup, t'étais pas avec moi. En plus, ça t'a foutu en vrac et c'est moi qui dois ramasser les morceaux derrière. » Enfin, c'est...
Yep.
Ouais, dans ce cas-là, on est content qu'il y ait des amis qui analysent la situation de l'extérieur et qui fassent les commentaires qu'on aimerait faire.
Ouais.
Et du coup, là, c'est même pas on se sent mal vis-à-vis du méta ou le méta se sent mal vis-à-vis de nous. C'est vraiment factuellement, le méta fait du mal et on a envie que le lien il s'arrête en réalité.
Bah, c'est pas toujours factuel, hein. Parfois, c'est une impression.
Mm. Oui, moi tout à l'heure, j'ai dit. C'est pas que je le pensais, c'est que je le savais. C'est pas vrai, en fait. Enfin, je savais pas vraiment. Je voyais que des choses étaient difficiles et je savais pas si la balance, elle était vraiment négative ou si, en vrai, il y a des choses négatives, mais elles sont largement compensées par des choses positives, quoi.
On a parlé de toxicité la dernière fois dans l'épisode 16 et on a vu que c'était pas si évident de définir ce qui était toxique ou ce qui l'était pas. Donc, on reste dans cette même veine-là.
Ouais. Alors, je vous propose maintenant de tirer des conclusions de tout ça, de voir un peu ce que vous avez pu mettre en place ou des visions que vous avez pu décider d'adopter pour essayer de se sortir des mauvaises passes, quoi.
Je pense que le premier comportement à mettre en place qui me vient en tête, c'est de rencontrer son ou sa méta autour d'un moment spécifique, vraiment entre méta, pas lorsque son méta vient voir son amoureux ou son partenaire. Pourquoi parce que ça permet d'humaniser la personne et de se rendre compte qu'on peut échanger calmement entre adultes. Et il n'y a pas forcément besoin de multiplier ces rencontres, mais je pense que le faire une fois, ça peut dédramatiser les choses et qu'on se rende compte que finalement, on veut la même chose, à savoir que la personne dont on est le partenaire soit contente et puisse vivre ses relations au mieux. C'est un conseil pour le coup que Alexia m'avait donné et moi je l'avais mis en place dans une relation et effectivement j'avais hyper peur d'un lien qu'un de mes partenaires avait avec une personne, ils étaient grave en crush et avant même qu'ils entrent en relation, je me disais ça va être ma méta et j'ai déjà peur d'elle et ça me panique, elle a l'air vraiment trop stylée et il va me quitter pour elle et en fait la rencontrer déjà ça m'a fait me rendre compte que oui, c'était quelqu'un de stylé, mais c'était aussi quelqu'un de bienveillant et a priori qu'elle me voulait pas de mal d'une manière directe, que peut-être qu'on n'allait pas être les meilleurs amis du monde, mais qu'en tout cas, c'était pas une personne qui voulait me rayer de la surface de la terre et ça m'a rassurée d'avoir cette vision-là. Et ouais, du coup, pour moi, rencontrer mes métas et un petit peu discuter et voir que on était capable d'avoir une discussion sereine, de boire un café et de rentrer chez nous après, ça m'a aidée.
Ouais, petit bémol par rapport à ça. Ça peut se faire quand il n'y a pas de grosses insécurités de part ou d'autre, quoi. Il y a des moments où c'est pas le moment de rencontrer sa méta. Si toi, tu te sens vraiment trop en insécurité, moi, il y a des moments où j'étais trop fâchée, trop en colère, trop dans le mal, et je pense que ça aurait pas été très constructif que je discute peut-être avec ma méta parce que j'aurais peut-être pas réussi à ne pas être agressive ou ne pas être amère ou des choses comme ça. Et voilà, et encore une fois, inversement, je pense qu'il y a des fois où je me suis retrouvée confrontée à une méta et c'était pas le moment, quoi.
C'est pas toujours idéal, c'est pas toujours le moment, et parfois il y a des gens qui voudront pas, mais souvent quand même, c'est quand même une bonne chose qu'il y ait cette rencontre, ça aide quand même pas mal les gens. Et comme tu disais, Adèle, c'est bien de faire une rencontre à deux, parce que souvent l'idée ça va être de c'est le pivot, donc partenaire commun qui va un peu organiser, et ça va du coup être un moment à trois, etc. Et en fait, souvent c'est plus simple si c'est juste à deux.
Yes, parce que je pense que devant du coup le partenaire pivot, il va y avoir peut-être une surattention à comment le pivot va se comporter avec les deux autres. Et comme il y a le pivot pareil, tu vas avoir l'air peut-être particulièrement stylé ou des trucs comme ça parce que tu veux rester dans la séduction. Alors que face à ta méta, c'était là, on est sur un pied d'égalité, entre guillemets, et on n'a pas à se pavaner devant la personne qu'on aime en commun.
Ouais, et puis éventuellement, la personne pivot peut être, même si c'est pas forcément à recommander, mais ça peut être un sujet de conversation, et c'est jamais très agréable pour une personne d'être le sujet de la conversation en étant
et
présent.
Oh, je suis là.
Et une manière de faire alliance avec ces métas, c'est potentiellement de s'ouvrir aussi sur des partages autour de son partenaire et
pour bitcher sur le pivot. Ne faites pas ça, c'est une blague.
On en rigole, mais moi, ça m'est arrivé de partager des petites choses qui m'agaçaient et dont j'avais eu vent par mon partenaire. Mon partenaire se plaignant, d'une réaction de ma méta par rapport à quelque chose qu'il avait dit et que moi, je pense dans ma tête. Mais attends, elle a grave raison, ça, c'est notre relation. Et si je la rencontre, il faudrait grave que je dise que moi, je la soutiens par rapport à ce petit événement, tu vois.
Ouais, je vois.
Du coup, ça a pu m'arriver. C'est pas vraiment du bitchage, mais faire un lien à partir d'une petite anecdote de vie qu'on vit toutes les deux et qui nous agace toutes les deux chez notre partenaire. Et c'est un peu dire non mais t'inquiète, je sais ce que tu vis. Et ça peut aussi être une manière de connecter et de se dire qu'on a des choses aussi en commun avec son ou sa méta.
Et après, vous quittez le pivot et vous partez vivre ensemble.
C'est pas aller jusque là, mais.
Un autre point que j'aimerais bien aborder, c'est la question de la responsabilité. Il y a plusieurs choses à dire sur la responsabilité envers des autres gens. C'est-à-dire que, par exemple, si la relation se passe mal parce que vous êtes jaloux, par exemple, que votre partenaire parte en week-end avec votre méta, et bien en fait, la responsabilité est là. On a envie de dire « Oh là là, c'est la faute de la méta qui l'embarque dans ses week-ends » ou alors peut-être même que le méta, il va vouloir, que votre partenaire l'appelle tous les soirs et du coup, ça vous fait chier que le partenaire l'appelle tous les soirs, un truc comme ça, en disant « Ah bah, c'est la faute du méta qui veut qu'on l'appelle tous les soirs, etc. » Et en fait, Moi, je dis non. Je dis non, c'est pas la faute du méta, en fait, c'est la faute de votre partenaire, en fait, qui... Enfin, c'est la faute. Après, est-ce que c'est une question de faute ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est votre partenaire qui est responsable de choisir de partir en week-end, de faire cet appel tous les soirs, etc. Et le partenaire pourrait s'arranger différemment, mais en tout cas, de ne pas rejeter toutes les fautes sur le méta, de dire « Ah bah tout ça, c'est la faute du méta », parce qu'en fait, c'est le partenaire qui doit prendre ses propres responsabilités et mettre les limites, et du coup...
De mettre des limites ou de faire des choix ou de vérifier auprès de nous que la manière dont il se comporte avec ses autres partenaires nous convient. C'est aussi l'idée de pouvoir parler de ses autres relations et de dire, en fait, si ça impacte notre relation, éventuellement, comment on peut faire en sorte que ça n'active pas certaines de mes insécurités, que moi, je me sente à ma place aussi. Et donc, effectivement, là, en l'occurrence, dans les exemples que Sacha prend, c'est tout à fait pertinent. Le partenaire aurait pu vérifier que si vous vivez ensemble, il n'a pas forcément envie de voir que tous les soirs, il appelle sa méta, quoi.
Après, c'est à chaque fois, c'est question de discussion. Si ça se produit, pourquoi ? Est-ce que la méta a vraiment besoin d'être rassurée ? S'il y en a deux qui vivent dans une maison, l'autre, elle a besoin de se sentir un peu plus proche et demander un appel, pourquoi pas ? Qu'est-ce que ça lui fait si, en fait, c'est pas un appel tous les jours, mais un jour sur deux ? Et donc là, on arrive sur les questions de faire le point sur les besoins de chacun et trouver une solution qui convient à tout le monde. Et là, pour le coup, pour faire la balance entre les deux relations, c'est effectivement le pivot qui doit gérer et prendre en compte les différents besoins. Et après, chacun doit se montrer compréhensif, quoi.
Mais ça revient avec ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est intéressant d'avoir une relation cordiale et avec la bienveillance éventuellement, on n'a pas utilisé ce mot-là, mais une relation cordiale et bienveillante envers ses métas, ce qui fait que si on peut avoir de l'empathie pour son méta grâce à cette relation cordiale, ça permet de dire « Ah ben, pauvre méta qui est si loin, évidemment que ça lui ferait du bien un appel de temps en temps, et du coup, on se sentirait moins gêné éventuellement. » Bon, on dérive sur un peu d'autres sujets, mais...
C'est un peu de la science-fiction pour beaucoup de gens, mais il est possible d'engager un dialogue directement avec la méta aussi, et dire... Ok, c'est un peu pénible pour moi quand il se passe ça. Quel est ton besoin ? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose autrement ?
Alors oui, mais attention à pas tomber dans l'autre travers de la responsabilité, qui est qu'on n'est pas responsable de son ou de sa méta. C'est-à-dire que si notre méta nous contacte en disant « Ah là là, je me sens pas bien quand tu passes des appels avec notre partenaire commun », eh bien... Ouais. En théorie, c'est pas à nous de dire « Ah oui, tu te sens pas bien, peut-être que je vais voir, donne-moi ton agenda, je vais appeler à tel moment, etc. » C'est pas à nous de faire ce travail-là, normalement, on n'est pas responsable de notre méta. Et si notre méta, elle se sent pas bien à cause de nous, alors ça veut pas dire qu'il faut rester un monstre et faire tout pour lui pourrir la vie, mais si elle se sent pas bien à cause de nous, les limites arrivent très vite à partir du moment où c'est plus notre responsabilité et c'est au partenaire pivot de s'occuper de ce genre de choses.
J'avoue que là-dessus, moi, je prends parfois des responsabilités que je devrais pas et en suggérant même des idées à la relation pivot en mode « Ah, je pense que ma méta, elle a besoin de ça et peut-être que tu pourrais faire tel truc ou telle chose pour elle. » Après, c'est des idées, mais c'est vrai que je pense que c'est important de se rappeler qu'on n'est pas responsable du vécu des autres et que du coup, il faut les laisser gérer aussi.
Et par rapport à ce truc de responsabilité, vous n'êtes pas responsable si votre méta ne vous aime pas. Et c'est vraiment difficile, mais c'est quelque chose que moi, je veux réussir à accepter aujourd'hui. Ça arrive, on est traversé par des insécurités et votre méta, elle peut être traversée par des insécurités. C'est pas de votre faute. Et essayez de chill par rapport à ça. Et je dis essayez, mais je me parle à moi-même.
Et c'est vrai que la responsabilité, c'est important, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse de trop se déresponsabiliser. C'est vrai que moi, dans mes relations avec les méta, je sais par exemple que Alexia parfois organisait une soirée et il y avait un méta qui était là, donc un autre partenaire d'Alexia, et moi je me disais c'est pas ma responsabilité, je m'en fiche un petit peu, je vais passer la soirée avec mes amis et puis lui il se débrouillera bien comme il veut. Et en fait bêtement, juste j'aurais juste dû prendre un petit peu de temps pour passer un peu de temps avec lui et lui dire bonjour et le faire se sentir bienvenu, parce que du coup après il a pu penser que je pouvais le détester alors que c'était pas le cas. Et donc juste prendre un petit peu le temps d'instaurer une relation cordiale, c'est pas obligatoire mais ça peut être intéressant quand même.
Et puis il y a un autre truc qui est, demandez pas au pivot de tout gérer non plus. Enfin, c'est à lui de gérer comme il veut et c'est pas forcément bienvenu de lui dire « Ah, tu dois faire ça ou tu dois faire ça ou tu dois t'en occuper comme ça ou je sais pas quoi ».
Moi, j'aimerais ajouter un dernier conseil. Je pense que ça peut aider de visualiser son ou sa méta comme un allié. En fait, c'est une personne qui veut la même chose que vous, comme j'ai dit. Et je pense que quand on rencontre l'ami d'un de nos amis ou l'ami d'un de nos amoureux, ben, on a plus tendance à penser que c'est aussi notre ami. Ben, peut-être qu'on devrait essayer de visualiser les choses de cette manière-là et ça nous ferait peut-être moins entrer en concurrence et en compétition. Et moi, je sais que ça m'a aidé à mieux vivre les moments où ma relation me racontait un super moment passé avec une méta en me disant si il me racontait ça avec une amie, est-ce que je le vivrais mal? Et la réponse, c'était non, c'est cool pour lui. Et parfois, ça a pu m'aider à vivre les choses un petit peu mieux.
Yes, a priori, on est dans la même équipe.
Et ce truc d'équipe, ça marche trop bien pour moi. C'est on peut faire équipe, tout le monde veut être content et heureux ensemble. Du coup, yes. Let's go.
L'épisode touche à sa fin. On a essayé de montrer la diversité des relations possibles entre méta et on a vu que c'est pas toujours facile. Si vous avez envie de nous dire comment ça se passe pour vous, on vous lira avec grand plaisir. Vous pouvez nous envoyer un mail ou bien commenter le post de l'épisode sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, un grand merci à celles et ceux qui nous ont déjà écrit suite aux autres épisodes. La prochaine fois, on s'intéressera à la personne qui est entre deux méta, c'est la personne pivot. On verra que c'est une position qui n'est pas de tout repos non plus. Sacha et Adèle, sur quoi vous voulez terminer ?
Bah, visualiser mes méta comme des alliés plutôt que comme des concurrentes ou des ennemis m'a aidé. Après tout, on aime une même personne et on souhaite son bonheur.
La relation de métamour, c'est quelque chose dont on n'est pas habitué. À chacun de trouver le juste milieu entre ne pas trop se mettre de pression à créer des liens si on ne le souhaite pas, ou mettre une distance trop grande avec quelqu'un qui partage une partie de sa vie.
Et moi, j'aimerais vous encourager à ne pas paniquer. Ça fait 10 ans que je suis en relation non exclusive, et aujourd'hui encore, ça peut me faire vraiment peur de voir arriver une nouvelle méta, une nouvelle personne. Ma peur peut se déguiser en colère ou vraiment me frapper alors que je m'y attends pas du tout. Et voilà, juste ça arrive quoi. On peut avoir besoin d'un peu de temps avant de savoir comment on se sent. Et c'est ok, et ça peut passer. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce podcast en est à ses débuts et on est avide de vos retours. N'hésitez pas à nous envoyer un mail sur contact@atesamours.fr et on se fera un plaisir de vous répondre. Vous pouvez trouver le transcript et les sources de cet épisode sur notre site atesamours.fr. À bientôt pour le prochain épisode.